France Inter, le 18-20.
Quelles sont les attentes des jeunes en 2016? On en parle ce soir au téléphone sonne. Il y a quelques jours, en effet, le Forum français de la jeunesse, qui regroupe une quinzaine d'organisations lycéennes, étudiantes, syndicales, a publié un livre blanc avec un certain nombre de revendications. Cette semaine également, les apprentis d'Auteuil ont publié un manifeste, histoire de se rappeler au bon souvenir des politiques à quelques mois de la présidentielle. Alors ce soir, on ouvre le débat avec vous, les auditeurs de France Inter, et avec nos invités. Le sociologue Michel Fize, auteur de « Jeunesse à l'abandon » chez Mimesis. Bonsoir Michel Fize.
Bonsoir.
Avec nous également Giuseppe Avigès. Bonsoir. Vice-président de l'UNL. Vous avez 18 ans, vous êtes en terminale ES à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis. Laura Slimani avec nous également, une vieille, si je puis dire, de 27 ans, qui est présidente des Jeunes Socialistes Européens. Louis Chauvel, l'auteur de « La spirale du déclassement », est resté à nos côtés. Alors n'hésitez pas à les interpeller, que vous soyez jeune ou pas. D'ailleurs, vous pouvez intervenir via les réseaux sociaux avec le mot dièse Telson. Il y a aussi le téléphone 01 45 24 7000.
Claire Servagen, le téléphone sonne.
Et tout de suite, direction le standard de France Inter où nous attend Zachary. Bonsoir Zachary.
Bonsoir.
Vous êtes lycéen et vous nous appelez de Rennes, me semble-t-il.
Oui, et donc je trouve qu'il est difficile pour nous, les jeunes, moi je suis assez jeune vraiment parce que je suis lycéen, donc j'ai 16 ans, j'ai pas encore le droit de vote, mais je trouve qu'il est quand même assez difficile d'attendre quelque chose de la part des politiques en France. Avec des députés qui sont quand même des hommes blancs de plus de 50 ans. Et quand on les entend parler, par exemple, des 35 heures ou de l'avortement, on sait que ça va plutôt nous qu'allons être concernés plus tard, plutôt qu'eux.
Et vous aimeriez bien pouvoir vous exprimer ?
Oui, avec le vote à partir de 16 ans, par exemple, on en entend parler, on commence un petit peu. Et je trouve que oui, ce serait une bonne idée, par exemple, qu'on puisse s'exprimer assez tôt.
Vous en débattez autour de vous au lycée ?
Oui, on commence surtout par exemple avec les élections présidentielles qui arrivent, on commence à en parler un peu dans les couloirs.
Alors, merci beaucoup Zachary de nous avoir appelé et de nous avoir parlé de cette question de la représentation politique et du vote à 16 ans. Qui veut commencer peut-être le plus jeune d'entre vous, Giuseppe ?
Ouais, allez, go. Vu l'intervention qui a été faite, je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir cette parole-là qu'on retrouve nous à travers notre action. Pour tout le monde, je le rappelle, on est en campagne donc actuellement nous, notre syndicat, l'UNL, sur une votation lycéenne sur le droit de vote à 16 ans. Donc les lycéens peuvent s'exprimer à travers nos actions pour ou contre le droit de vote à 16 ans. C'est une action qui nous permet de pouvoir faire créer le débat dans la société et faire en sorte que en fait finalement c'est 1,5 million de personnes qui ont entre 16 et 18 ans aujourd'hui en France puissent pouvoir essayer de pencher la balance des politiques.
Voilà, sachant que pour cette présidentielle ça risque d'être un peu compliqué, il faut lancer le débat pour la suite. Laura Slimani, des jeunes socialistes européens?
Oui, je pense que Zachary il pointe du doigt quelque chose de très important et qui est d'ailleurs pas uniquement une réalité ou en tout cas un ressenti pour les jeunes de moins de 18 ans, mais aussi pour en fait tous les jeunes qui ont le sentiment de pas être entendus par les responsables politiques et de pas avoir des responsables politiques qui leur ressemblent. Et à mon avis, ça doit interpeller les partis politiques. On est dans un moment où il y a une forte demande de démocratique. Les gens ont envie d'avoir le choix de leurs candidats, le choix des programmes, et ils ont envie que les responsables politiques ensuite tiennent leurs promesses. Et ça, c'est très clair. Et donc, ça nous interpelle et ça doit nous interpeller dans la manière dont on fait de la politique aujourd'hui. On a des partis politiques qui ont encore des structures qui ont été créées au début du XXe siècle. Il faudrait passer peut-être au XXIe siècle et ça veut dire aussi accepter plus d'horizontalité, plus de participation citoyenne et aussi peut-être le droit de vote à 16 ans. En tout cas, c'est une question qui se pose aujourd'hui vraiment quand c'est des jeunes qui par ailleurs font plein de choix, ont beaucoup de responsabilités dans leur vie quotidienne.
Est-ce que c'est une bonne question, Michel Fize ?
Eh bien écoutez, c'est une mesure que je défends depuis exactement 22 ans.
C'est un précurseur.
Donc j'ai l'âge suffisant pour dire que j'en suis quand même le père. Et bon, je suis fier d'avoir proposé cette mesure au moment d'ailleurs d'un grand événement qui avait opposé la jeunesse et le pouvoir. C'était au moment de la révolte contre le CIP, syndicat d'insertion professionnelle, au moment du gouvernement Édouard Balladur. C'est une proposition d'ailleurs que, au nom du comité dans lequel je travaillais à l'époque, nous avions présenté à Monsieur Balladur, et il avait été ce principe écarté. écartés sous prétexte qu'on risquait l'inconstitutionnalité. Voilà. Alors, je ne sais pas très bien d'où vient cette façon de voir. Voilà. Alors, ceci étant,
on voit quand même que quand il y a des élections, les plus jeunes, quand même, grossissent les rangs de l'abstention. Alors, est-ce que c'est vraiment la question prioritaire numéro un d'abaisser le droit de vote à 16 ans? Ce sera à vous dans un instant, Louis Chauvel. Oui. Je laisse finir Michel Fils.
D'abord, bon, on sait comment se comportent les 18-25 ans, parce qu'effectivement, ils votent déjà depuis un certain nombre d'années. Pour les plus jeunes, donc les mineurs de 16-17 ans, toute extrapolation me paraît effectivement inappropriée, notamment celle qui consiste à dire il ne faut pas donner le droit de vote aux 16 ans, parce que sinon, on va avoir autant d'électeurs du Front National. Voilà, ce qui est à mon avis tout à fait incroyable. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, c'est trop tard pour la présidentielle, effectivement, mais c'est peut-être pas trop tard pour les primaires citoyennes qui arrivent. Pourquoi est-ce qu'on n'autoriserait pas les jeunes de 16 ans?
Les primaires qui sont organisées par la gauche sont ouvertes aux moins de 18 ans. Entre 16 et 18 ans, on peut voter. C'était déjà le cas en 2011, d'ailleurs, parce que c'était quelque chose que les jeunes socialistes avaient demandé à l'époque.
Voilà. Bah c'est très bien.
Possibilité de voter les 22 et 29 janvier. Louis Chauvel, vous demandiez la parole.
Oui, sur cette question-là, je suis assez agnostique, je dois le dire. Parce que sur le fond des problèmes de la société française, on compte surtout en manque de jobs, de vraies positions dans la société et d'investissement dans la jeunesse. Et j'ai le souvenir que nous sommes passés de la majorité à 21 ans, à 18 ans, à la fin des années 70, exactement dans le contexte où la situation des jeunes est passée à son niveau le plus catastrophique. Voilà, la situation des jeunes était meilleure lorsque la majorité était à 21 et pas à 18. Il est vrai que le passage de la majorité à 18 a permis à Monsieur Mitterrand de gagner les élections suivantes et Giscard d'Estaing a été victime de sa propre décision. Mais sur le fond, la situation des jeunes est beaucoup plus catastrophique maintenant. La réalité, c'est que c'est beaucoup moins... Bon, ça fait partie des questions symboliques. Qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, les réalités sociales ne seront pas différentes. Le point central de la société française, c'est que la société française refuse ces jeunes de 7 jusqu'à 37 ans, peut-être pas 77, mais peu s'en faut, et que cette question du vote des jeunes est quand même un peu un cotère sur une jambe de bois.
Giuseppe.
Mais la question qui est à dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est dans un contexte pré-présidentiel où on voit que la question de la jeunesse est totalement absente, en fait, sauf à part dans les belles paroles qui sont citées par-ci par-là. On se rappelle, le candidat François Hollande en 2012 disait « je veux gouverner pour la jeunesse », parler de priorité jeunesse. Aujourd'hui, en fait, on a du mal à l'avoir. Et ces jeunes qui représentent encore une fois 1,5 million de personnes pourraient permettre un rééquilibrage des corps électoraux afin de peser dans la politique.
Laura Slimani, un petit mot quand même, il vient de l'évoquer, les promesses de François Hollande qui avait fait de la jeunesse sa priorité. Vous qui êtes jeunesse socialiste, je ne sais pas si vous avez un avis complètement objectif, mais enfin, qu'est-ce que vous dites à François Hollande?
Paris réussi en partie ou pas? J'allais y venir en disant effectivement, cette mesure-là ne résoudra pas toutes les problématiques qui sont rencontrées par les jeunes. Bien sûr. Mais sur le bilan de François Hollande, effectivement, c'est un bilan qui est mitigé, et notamment parce que dire qu'on va faire une politique pour les jeunes, c'est une chose. Ensuite, faire une politique en direction des jeunes, avec les jeunes, c'en est une autre. Et il me semble que le deuxième élément qui est fondamental si on veut mener des politiques qui améliorent les conditions de vie des jeunes, c'est d'écouter les organisations de jeunesse et c'est d'écouter les jeunes et ce que nous disent les jeunes dans les différentes enquêtes d'opinion. Et je prendrai juste un exemple. Aujourd'hui, vous avez le Parti Socialiste qui apparemment a décidé de dire qu'il fallait être pour le rétablissement du service militaire.
Jean-Christophe Cambadélis,
mais au nom du Parti Socialiste, qui est une mesure qui n'est voulue par aucune organisation de jeunesse. Aucune. Vous n'en trouverez pas une en France qui est pour. Au-delà de ça, par contre, toutes les organisations de jeunesse aujourd'hui, ou quasiment toutes, demandent l'ouverture des minima sociaux au moins de 25 ans. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une discrimination à l'âge qui fait qu'en dessous de 25 ans, vous n'avez pas le droit aux minima sociaux, ce qui met des jeunes, une grande partie de la jeunesse, dans une précarité immense.
Ça aurait pu être rentré dans le débat. Aujourd'hui, Manuel Valls en a parlé.
Et je rencontrais des jeunes en garantie jeune il y a quelques jours qui sont dans cette situation-là où on ne peut pas se loger. Comment on trouve un emploi quand on ne peut pas se loger, quand on n'a pas de quoi manger? Et cette proposition-là ne figure pas, il me semble, dans les propositions du Parti Socialiste. Donc moi, j'interpelle à un moment donné les responsables politiques. Vous voulez faire des politiques en direction des jeunes, bah, écoutez ce que disent les organisations de jeunesse.
Voilà, ce sera la première chose. Michel Fils, alors, rapidement, parce qu'on repart au standard dans un instant.
Mais deux choses. D'abord, sur le service militaire obligatoire, je suis effectivement très très surpris d'une mesure qui réapparaît comme ça.
Enfin, c'était one shot, on n'en a pas vraiment réentendu parler depuis.
Il faut surtout dire que c'est totalement infaisable d'un point de vue financier. Parce que nous avons vendu une partie du parc immobilier, donc sauf à racheter les casernes, à supposer d'ailleurs qu'elles soient rachetables, dans ce cas-là, si ce n'est pas le cas, il faudrait en racheter d'autres, hein, c'est effectivement tout à fait utopique. La deuxième chose, par rapport à ce que disait Louis Chauvel il y a un instant, je pense qu'il faut bien avoir conscience que les jeunes ont deux besoins majeurs. Hein, un besoin effectivement d'emploi, qui passe d'abord par un besoin de réussite scolaire, mais également un besoin de reconnaissance sociale et un besoin d'avoir une identité positive. Vous savez, j'ai écrit un livre sur le djihadisme récemment, sur la radicalisation des djihadistes. Il ne faut pas chercher très très loin la raison effectivement de l'engagement de certains jeunes pour le djihad. Hein. C'est effectivement d'avoir une identité, un rôle majeur à jouer.
Alors on repart au standard dans un instant, mais Giuseppe, juste un mot sur le service militaire, ça vous tente vous ?
Alors le service militaire,
obligatoire.
En tout cas à titre personnel, non, ça ne me tente pas. Si on regarde à l'Union Nationalissaine, donc on n'a pas de position encore là-dessus sur ce sujet-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, les revendications sociales de la jeunesse ne sont pas entendues et qu'on parle en notre nom tous les jours. Donc, par exemple, les propositions de la droite en matière éducative, on parle de lever drapeau dans les lycées, on parle d'uniforme, on parle de ces thématiques-là. Et pourquoi pas ne pas demander l'avis à ces 16-18 ans qui seront concernés par ces mesures. Je pense que c'est la moindre des choses et c'est décent, finalement.
Effectivement, vous avez raison. Merci beaucoup. On part au standard. C'est Martin qui nous appelle de Tours. Bonsoir, Martin.
Oui, bonsoir. Moi, personnellement, je ne suis pas un jeune, mais j'ai eu deux fils. J'ai deux fils qui sont jeunes, qui ont eu 33 et 37 ans, qui ont fait leur scolarité en France et qui ont parfaitement réussi. Mais la jeunesse, elle est sacrifiée par notre société. La jeunesse n'a plus confiance. Elle n'a plus confiance dans les hommes politiques qui sont devenus des voleurs légaux, qui s'octroient des tas d'avantages. Et pendant ce temps-là, tous nos jeunes, eh bien, ils voient le chômage pointer. Et quand ils ont du travail, ils sont exploités. Quand ils sont ingénieurs, j'ai un de mes fils qui a fait centrale. Il faut voir un petit peu les salaires, les charges qu'ils subissent. Hein, on a en face du blabla. Les hommes politiques s'intéressent à la jeunesse tout simplement pour leur voix, pour les élections, et après, ils font leur tambouille entre eux. Et je reproche aux journalistes d'ailleurs de ne pas poser des questions aux hommes politiques justement suffisamment précises sur la jeunesse, sur le chômage de la jeunesse. C'est effrayant ce qui est en train de se passer. Les jeunes, c'est l'avenir. C'est pas les vieux qui sont l'avenir. Moi, j'ai 67 balais, je sais ce qu'il en est, j'ai travaillé 44 ans. Hein. Mais je peux vous dire que c'est l'avenir, la jeunesse. Vous êtes en train de massacrer la jeunesse, littéralement. On ne comprend pas, mais la jeunesse, vous savez, je vais vous dire, il y avait un type qui était extraordinaire qui s'appelait Monsieur Pierre-Jules Degène. Quand on lui a remis le prix Nobel de physique à Stockholm, il a dit sur l'estrade, le couronnement de nos vies n'est pas dans les récompenses, il est dans nos enfants. Et putain, on est en train de tout massacrer, et vous les avez tous, à gauche, à droite, tous. Nos jeunes, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de logement, et on fait du blabla, et on fait du blabla. On essaie de leur donner, vous savez, la démocratie romaine, c'était ça, c'est du pain et des jeux. On les amuse avec le foot, on les amuse hein, avec des tas de choses comme ça. Et à côté de ça, ils ont une très bonne formation, l'éducation nationale, on crache dessus, il y a des bons et des mauvais. Mais on a quand même les classes préparatoires, il y a quand même les facultés. Eh bien, ils arrivent au bout et on en fait quoi ? Des serveurs de restaurant ? Attendez ! Et là, j'attends justement que les journalistes soient beaucoup plus sévères. Arrêtez d'être des journalistes du microcosme parisien.
Merci.
Qui va manger à la closerie des lilas avec les hommes politiques.
Un grand merci, Martin, pour ce cri de colère. Message reçu 5 sur 5, en tout cas. Bon, on se tourne vers Louis Chauvel, hein, parce que c'est exactement ce que vous nous dites, Louis Chauvel.
Ben, tout cela me rappelle, voilà pas si longtemps, c'était peut-être voilà une dizaine d'années, sur un plateau de France Culture, je pense, avec Jean Lebrun, Jacques Lang, que nous aimons tous, avait sorti une phrase assez définitive. « Je comprends les jeunes parce que je l'ai été moi-même ». Et en fait, c'est assez marquant d'une génération qui est celle du baby-boom, celle qui a 70 ans aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et qui en fait a été jeune élue à l'Assemblée nationale. C'est pas simplement le Parti Socialiste. François Fillon, dès l'âge de 30 ans, était déjà dans la même boutique à l'Assemblée nationale, dès le tout début des années 80. Mais cette génération premier-née du baby-boom, formée par mai 68 à l'âge de 20 ans, pour la plupart, parce que beaucoup sont nés vers 1945 jusqu'à 54, pour François Fillon par exemple, cette génération a fait toute la vie politique française depuis une quarantaine d'années. Donc ils connaissent les jeunes parce qu'ils l'ont été eux-mêmes à une époque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les frontières de la jeunesse ont totalement changé. C'est-à-dire que pour tout à l'heure, 16-18 ans, ça me paraît extraordinaire de discuter de cela, alors même que les jeunes sont en situation de marginalisation jusqu'à au moins l'âge de 33-35 ans, dans tout un ensemble d'aspects. Lorsque vous regardez la pyramide des âges de l'Assemblée nationale, en dessous de 45 ans, vous avez un désert, vous avez quelques personnes, mais comparé à la situation il y a 40 ans, il y a une désertification. Les jeunes sont nulle part en politique, dans les médias, et ainsi de suite, mais ils bossent comme stagiaires.
Merci Louis Chauvel. Laura Slimani, c'est vrai que, par exemple, au moment de la primaire de la droite, on a surtout parlé des retraites, hein. On a quand même un petit peu oublié les nouvelles générations. Vous souhaitez réagir ?
Oui, non, mais je pense que ce qui a été dit par Martin est tout à fait juste, et c'est effectivement la colère d'un père et la colère de beaucoup de parents de voir aussi que leurs enfants finalement vont peut-être avoir une vie moins bonne que la leur, ou en tout cas pas meilleure que la leur. Et je pense qu'effectivement, dans ce sens, la jeunesse, ça parle à tout le monde. Et ce qui est posé comme défi aux responsables politiques, c'est de regarder véritablement quelles sont les problématiques des jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire le chômage, la précarité dans l'emploi, des carrières de plus en plus hachées avec un système de sécurité sociale et un système de retraite qui leur apparaît de plus en plus lointain, également des questions qui sont extrêmement importantes pour les jeunes, dont on parle très peu, et je suis heureuse que Benoît Hamon en ait parlé hier à la télévision, la question de la santé environnementale, la question de l'environnement dans lequel on vit, la pollution, les perturbateurs endocriniens, l'état d'un certain nombre de logements, voilà. Toutes ces questions-là, c'est des questions les jeunes dans toutes les enquêtes d'opinion, et notamment l'enquête Génération Quoi, qui est une très belle enquête de qualité.
Génération Quoi, qui sera suivie dans quelques jours de Génération What au niveau européen, je le précise. C'est la semaine prochaine qu'on aura des infos là-dessus.
Il faut que les responsables politiques se saisissent de ces sujets-là, et ça demande un peu de sérieux, un peu de travail et moins de recettes toutes faites qui nous viennent, qui sont les mêmes depuis des années.
Giuseppe Avigès de l'UNL, quand vous entendez Martin, vous dites je
partage ce constat-là, et je pense qu'il y a beaucoup de lycéens et de 16-18 ans et de jeunes de générations qui sont offusqués par ce qui se passe aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'on a beaucoup progressé, hein, par rapport à il y a 5 ans sur la thématique du droit de vote à 16 ans, notamment sur la précarité de la jeunesse. On est beaucoup plus repris là sur l'élection présidentielle. Si on regarde les engagements qui sont pris par les candidats, on a notamment Jean-Luc Mélenchon qui, dans son programme, a intégré le droit de vote à 16 ans. On a la primaire des écologistes qui était ouverte aux 16-18 ans, bientôt la BAP, si j'en crois ce qu'on est en train de dire.
C'était GLK en 2000.
On avance.
On a compris qu'on avait quand même un soutien de Benoît Hamon, un soutien de Jean-Luc Mélenchon. Exprimez-vous, pas de soucis.
Mais on voit que ça avance.
Et le mien.
Et aujourd'hui, il y a des fossoyeurs du débat, notamment, par exemple, vous voyez sur Twitter, ce mercredi-là, Madame Balkany qui comparait ce débat du droit de vote à 16 ans par rapport à la position de Thierry Solaire, donc le porte-parole de François Fillon qui s'est positionné pour le droit de vote à 16 ans, qui comparait le droit de vote à 16 ans et disait moi, je vais sortir les pop-corns maintenant. Et ces personnes-là qui fossoient le débat, qui fossoient la démocratie, je propose à Madame Balkany de venir discuter avec moi, de venir débattre en plateau, et on verra de qui est le plus immature de nous deux.
Michel Fils.
Je crois qu'il y a deux arguments qui s'opposent, en tout cas qui sont présentés par les adversaires de cette proposition. Le premier argument, c'est celui de la capacité psychologique ou de l'incapacité psychologique à gérer effectivement un pouvoir comme celui-ci. Et le deuxième argument contraire par rapport à cette mesure, c'est son utilité, pour dire aussitôt que ce ne sera pas d'une grande portée. Alors, je crois qu'il faut dire deux choses. La première, c'est que on est très sérieux quand on a 16 ans. D'abord, si on ne l'était pas, on n'aurait pas tout ce seuil de droit que la société française a inventé, hein, je rappelle, droit de conclure un contrat de travail, hein, d'adhérer à un syndicat professionnel, de pouvoir bénéficier d'un emploi d'avenir, de pouvoir devenir sapeur-pompier volontaire, de pouvoir ouvrir un compte en banque. Donc si la société a fait tout ça, c'est qu'elle reconnaît quand même des capacités, hein, aux jeunes de pouvoir les assumer. Voilà, alors maintenant je pense que par rapport effectivement à la priorité jeunesse, pourquoi est-ce que les politiques n'en parlent pas aujourd'hui ? Parce que malheureusement la priorité jeunesse est un échec, globalement. C'est vrai que les mesures qui ont été prises vont dans le bon sens, garantie jeune. Tout ça, c'est pas négligeable, hein, moi j'en tiens compte. Mais les jeunes ne vivent pas aujourd'hui mieux qu'en 2012. C'est un fait, hein. Le chômage massif reste là, la précarité, l'impossibilité d'accéder au logement, le manque de soins, etc. Enfin bon, tout le schéma habituel, et ça ne change pas.
On repart au standard, c'est Stéphanie qui nous appelle, elle nous appelle de l'Essonne. Bonsoir Stéphanie.
Oui, bonsoir. Vous avez évoqué brièvement tout à l'heure la crainte éventuelle que des jeunes votants de 16-18 ans pourraient grossir les scores du Front National. Et en l'occurrence, ça va faire 2-3 ans avec mes ados de 13 et 15 ans où je suis assez effarée dans nos débats politiques. On est plutôt de gauche, centre-gauche à la maison. Et ils ont un discours parfois que je considère radicalement raciste. Ils sont dans des établissements de banlieue, dans un milieu de mixité sociale. Ils me décrivent effectivement dans leur quotidien une mixité qui ne marche pas, plutôt des groupes qui ne se mélangent pas forcément. Et voilà, dans leur choix politique, moi je suis assez effarée. De même, dans la notion de solidarité, c'est presque un combat de tous les jours pour leur faire des rappels historiques, leur expliquer le pour, le contre. Donc voilà, donc
question,
y a-t-il des chiffres qui pourraient expliquer sociologiquement des tendances moins solidaires et plus individualistes chez les jeunes?
Alors je ne sais pas, merci beaucoup Stéphanie, qui veut lui répondre.
Moi je veux bien,
oui
du coup. Alors, je ne sais pas s'il y a des chiffres, mais en tout cas, je pense qu'il y a un vrai problème sur la question de l'éducation en France, c'est qu'on a un gouvernement qui a mené une politique de guerre sociale et éducative dans ce pays, et aujourd'hui on se retrouve avec, par exemple, des cours d'éducation morale et civique qui a été une avancée, je le pense, pour notre système éducatif, des cours d'éducation morale et civique qui ont pour but de former nos futurs citoyens dans l'éducation nationale, qui aujourd'hui se font très peu, qui ne sont pas assez efficients, et on a de vrais progrès à faire là-dessus, c'est qu'en fait, en sortant du collège, en ayant validé le socle commun, à 16 ans, on doit pouvoir faire en sorte que les citoyens puissent participer au débat démocratique de ce pays.
Laura Slimani.
Moi, je pense que d'abord, effectivement, je comprends les craintes de Stéphanie. Effectivement, il y a un vote Front National chez les jeunes qui grandit. C'est vrai. Et en même temps, moi, je pense que la démocratie, c'est pas conditionnel, quoi. C'est pas conditionnel à ce que les gens soient d'accord avec nous. La démocratie, c'est à un moment donné prendre des risques. Et oui, effectivement, le Front National progresse, mais il faut se poser la question pas d'empêcher les gens qui votent FN de voter, mais il faut à un moment donné convaincre. Il faut créer un projet de société qui convainc les jeunes aujourd'hui. Et effectivement, ça c'est le rôle de la gauche, mais simplement sur les valeurs des jeunes, parce que je voudrais pas qu'on ait une image un peu tronquée de ce que pensent les jeunes. Encore une fois, cette enquête Génération What ou Génération Quoi, qu'est-ce qu'elle dit en France? Elle montre que quasiment 67% des jeunes français de 18 à 35 ans pensent que l'Europe devrait s'ouvrir au monde en accueillant les réfugiés et en accueillant les migrants. 67% des jeunes. Le problème, c'est qu'une grande partie de ces jeunes-là ne se retrouvent pas dans les projets politiques de la gauche. Et c'est pour ça qu'il faut qu'à un moment donné, les jeunes et la jeunesse française s'emparent de ce débat démocratique qui va y avoir à gauche les 22 et 29 janvier, parce qu'il y aura des propositions radicalement différentes en matière de modèle de société, et que ça, c'est une fenêtre d'opportunité démocratique qu'il faut à tout prix saisir.
Michel Fille, sur la poussée du Front National, qui est quand même une réalité chez les plus jeunes.
On connaît effectivement les chiffres pour les 18-25 ans. Bon, si l'on accepte les abstentionnistes qui forment le groupe quand même le plus complet, c'est vrai qu'un tiers des jeunes aujourd'hui votent Front National quand ils se déplacent pour aller aux urnes. Mais pour le moment, on ne peut pas préjuger d'un vote des 16-17 ans, puisqu'il n'y a jamais eu aucune enquête, aucun sondage. Alors, ceci étant, on sait ce que valent les sondages, donc ça ne nous apporterait peut-être pas de résultats très satisfaisants. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que on lit parfois démocratie scolaire et démocratie politique s'agissant des jeunes. Et l'un des arguments, justement, d'hostilité au vote à 16 ans, de la part des jeunes eux-mêmes, d'ailleurs, d'un syndicat lycéen qui n'est pas autour de cette table, c'est de dire, mais il n'y a pas de formation à la connaissance des idées politiques, donc on ne peut pas effectivement donner ce droit de vote tant que l'éducation nationale n'aura pas fait effectivement ce type d'enseignement. Mais c'est comme si on disait, bon, à un enfant, tant qu'on ne t'aura pas appris à parler, on ne te permettra pas d'essayer de parler par tes propres moyens. Donc c'est grotesque, tellement. Et la deuxième chose, je pense qu'il faut un grand cours de formation à la citoyenneté, aujourd'hui, comprenant une dimension de philosophie politique, et il faut parallèlement pousser la démocratie scolaire, donc permettre aux élèves d'assumer à l'école toutes les responsabilités qu'ils peuvent assumer.
L'habitude.
Il faut construire, en fin de compte, une échelle de responsabilité très tôt dans la vie des individus.
Louis Chavert, rapidement, parce que vous êtes un bavard.
La situation est quand même celle-là, que la société française est une société profondément malade. L'un des principaux symptômes, c'est le chômage de masse. Il s'applique en premier lieu et avant tout sur les nouvelles générations de jeunes adultes. Et c'est pas simplement une question de 16-18 ans, c'est une question beaucoup plus large et qui déborde très largement au-delà de 30 ans. Dans cette situation de crise et de maladie de la société française par rapport à un chômage de masse, que l'âge du vote ne changera absolument pas par nature, nous nous trouvons dans une situation où effectivement, comme dans les années 1930, les jeunes ne sont pas forcément par nature des gens ni généreux, ni forcément démocrates. Dans une crise économique sociale, nous avons aussi une crise politique de la démocratie qui s'ancre de plus en plus fortement dans tout un ensemble d'échelons de la société. Il ne faudrait pas être surpris si à relativement courte échéance, la jeunesse en ait assez de l'ensemble du dispositif qui a été celui des années 68. Vous voyez ce que je veux dire ?
Juste ajouter un élément très rapidement, mais dans la progression du racisme dans nos sociétés, les responsables politiques ont aussi un rôle extrêmement important. Et quand on est sorti de 50 sarkozisme entre 2007 et 2012, le discours stigmatisant vis-à-vis notamment de l'islam avait progressé dans la société. Et moi, je reproche au gouvernement de ne pas l'avoir fait reculer suffisamment, de ne pas avoir assumé suffisamment une politique d'ouverture, de ne pas avoir pris ses responsabilités en matière d'accueil des réfugiés. La France, la patrie des droits de l'homme, n'a pas été capable d'accueillir un nombre minime de réfugiés alors que c'était sa responsabilité.
Et d'avoir abandonné la lutte contre les discriminations.
Exactement. Et les responsables politiques, ils ont un rôle de prescripteur dans la société. Donc ça fait aussi avancer les mentalités dans un sens ou dans un autre.
Giuseppe Avigès, rapidement, et après on repart au standard.
Et d'ailleurs, pour rebondir sur la thématique qui a été abordée par Laura, là aujourd'hui, on a Marine Le Pen qui a fait une sortie sur la question de la suppression de l'école gratuite pour les jeunes en situation irrégulière sur le territoire. Bah moi je pense que le Front National aujourd'hui il prend otage la jeunesse dans des mesures démagogiques et anticonstitutionnelles et au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes qui sont le fait que des mairies par exemple refusent d'inscrire à la cantine des enfants de chômeurs, le fait qu'on ait des classes surchargées dans ce pays-là, des classes de lycée à plus de 40, c'est insupportable et j'espère que le débat démocratique et que la démocratie pourra faire en sorte d'avancer ces revendications.
Merci à vous tous, on repart au standard. C'est Xavier qui est en ligne, c'est ça ? Xavier de Montpellier.
Oui.
Bonsoir Xavier, c'est à vous. Bienvenue.
Oui, bonjour. Bonjour France Inter, bonjour à vos invités. Je vais être assez rapide. Je suis formateur depuis des années. Je vis au milieu des jeunes toute l'année. Je constate qu'il y a une formule qui a prouvé son efficacité et dont les jeunes sont très friands, c'est l'alternance. Et je crois que leur problème, c'est effectivement le chômage, les 24% de chômage que l'on traîne aujourd'hui de manière structurelle. Et je pense que, pour avoir participé à un certain nombre de discussions et rencontré des hommes politiques, je pense que l'alternance n'avance pas parce que les politiques ne cessent de leur faire des promesses sur un dispositif qu'ils ne font pas progresser. Ils ne parlent que d'apprentissage pour des raisons liées au paritarisme et jamais de l'autre contrat d'ailleurs d'alternance qui lui marche plutôt beaucoup mieux et qui est le contrat de professionnalisation. Et je crois que l'ensemble de ces promesses non tenues crée une forme de désespérance dans cette jeunesse. Pour juste préciser un point, il y a quelques années avec une association dont je m'occupe, nous avons fait un sondage avec la TNS Offres qui montre qu'il y a environ un jeune sur quatre qui envisage de faire de l'alternance en France, c'est-à-dire par exemple environ 600 000 jeunes qui chaque année cherchent un contrat d'alternance pour à peine par exemple 160 000 contrats de professionnalisation. Alors ça, si c'est pas désespérant, mais je pense que les partenaires sociaux comme les politiques ont leur part de responsabilité dans cette question.
Merci beaucoup
voilà,
Xavier. Merci mille fois pour cette intervention. Xavier, qui veut lui répondre, Laura Slimani ?
Moi, rapidement, d'abord sur l'alternance, c'est vrai que ça fonctionne. Et en même temps, parfois, c'est difficile aussi pour un jeune de trouver une place. Mais c'est comme, par ailleurs, en apprentissage. Hein, y a, c'est à la fois ça fonctionne et en même temps, il y a peu de patrons qui sont prêts à un moment donné à prendre un jeune, à le former et à lui offrir une expérience dont il a besoin. Donc, c'est aussi la responsabilité des entreprises de ce pays. Mais je voudrais quand même pointer du doigt une question, c'est-à-dire que bien sûr il y a des emplois qui sont non pourvus, on nous dit il y a plein d'emplois non pourvus, etc. C'est pas vrai par rapport au nombre de chômeurs. Et on a un problème structurel d'emploi en France. Et on a un problème aussi de raréfaction du travail, de raréfaction de l'emploi. En tant que présidente des Jeunes Socialistes, je l'avais dit et j'avais beaucoup insisté sur ce sujet. Et je continue de le faire. Nous avons besoin de réduire collectivement le temps de travail si on veut permettre que tout le monde puisse travailler bien, puisse travailler moins et puisse travailler mieux. Et c'est une question de société globale qui est posée aujourd'hui si on veut permettre aux jeunes d'avoir des perspectives d'avenir.
Partage du travail, Michel Fils, rapidement.
Alors, d'abord, simplement rappeler que la situation particulièrement problématique de la jeunesse en France ne lui est pas spécifique. C'est la situation de toutes les jeunesses dans tout le monde, quels que soient effectivement les régimes politiques, économiques et sociaux.
Louis Chauvel fait signe que regarde... non. Pas
mais si, mais si, bien sûr. Hein. Quand comment on regarde par exemple les niveaux de chômage, à peu près partout, les niveaux de chômage des jeunes sont plus élevés que le chômage des adultes. Je prends simplement l'Allemagne, dont on vante effectivement le faible taux de chômage des jeunes. Oui, mais on oublie de dire que c'est quand même un taux de chômage qui est deux fois supérieur au taux de chômage des adultes. Donc ça pose quoi ?
Et avec
ça...
beaucoup d'emplois précaires en Allemagne.
Ça pose le problème, ça pose à mon avis le problème des modes d'évaluation. Des connaissances
alors
et des compétences.
On ne va pas rentrer dans
élèves.
Tous ces détails parce qu'il est déjà 19h51. Louis Chauvel, 20 secondes.
Italie,
vous étiez pas d'accord.
Espagne, Grèce, France sont des pays du Sud marqués par la présence massive du chômage comme entrée normale dans la vie adulte. Mmh. C'est scandaleux. Dans les pays du Nord, en Allemagne aussi, le chômage n'est pas cette perspective écrasante dans laquelle se trouvent concassées les jeunes générations. Et les 35 heures n'ont pas forcément profondément changé les conditions d'entrée dans la vie adulte des jeunes. Et ce qui est effrayant, c'est que les jeunes... qui parlent pour la jeunesse sont pour la plupart des gens totalement déconnectés du vrai monde du travail.
Giuseppe.
Et il ne faut pas l'oublier.
Donc, c'était pour nous, ça c'était pour moi, pardon.
Non, c'est général.
D'accord.
Mais vous,
vous
êtes une bonne représentative à
oui,
part
oui.
ça.
Non, mais c'est. On...
À part ça, vous êtes.
Giuseppe, rapidement, après on va au standard.
Il ne faut pas oublier que cette situation aussi de chômage des jeunes, qui est quand même massif aujourd'hui dans notre pays, elle est dramatique. Elle a des conséquences dramatiques sur le débat démocratique, puisqu'en fait, on fait des dizaines d'années d'études aujourd'hui en France, pour finalement avoir un droit à l'avenir, un débouché professionnel qui est précarisant, qui ne nous apporte pas de revenus. Et aujourd'hui, on appelle à ce qu'on traite cette question du chômage, cette question de la précarité de la jeunesse avec sérieux, puisqu'on n'a aucune réponse.
Voilà, on part au standard, on enchaîne. Gérald et Benjamin. D'abord, Gérald, c'est un appel qui nous vient de Belfort. Bonsoir à vous.
Bonsoir, Gérald à Belfort. J'entends votre débat. Votre discussion, et j'ai l'impression d'entendre la jeunesse qui reproche à la vieillesse, aux gouvernants, de ne pas savoir faire des propositions ou de ne pas tenir les promesses qui sont tenues. Moi, je constate que dans le militantisme, notamment à gauche, dans les syndicats, on voit moins de jeunes, on voit peu de jeunes. J'ai l'impression que quand on les voit arriver dans des partis de gauche, on a envie de leur tendre les bras. Il y a beaucoup de gens... de militants plus âgés, 50, 60 ans, qui sont contents de les voir arriver, mais ils sont très, très, très rares. Alors j'ai envie de quasiment de lancer un appel à cette jeunesse. Allez voter, investissez les partis. Faut pas compter sur des gens de 60 ans pour faire des propositions pour la jeunesse, parce qu'on va taper à côté.
Voilà, prenez le pouvoir, c'est ce que vous nous dites, Gérald. Merci pour cet appel, je presse un peu le pas. C'est Benjamin qui, lui, nous appelle de Reims. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous avez la parole, vous êtes sur l'antenne de France Inter, allez-y.
Eh bien, bonsoir à tous. C'est un peu dans la même lignée finalement de ce que disait Gérald avant, parce que finalement, c'est vrai que quand on regarde nous la classe politique en tant que jeune, on n'a pas l'impression qu'elle peut faire quoi que ce soit pour nous finalement, parce que on a eu Nicolas Sarkozy et François Hollande qui tous les deux avaient fait des propositions pour la jeunesse, hein, qui ne les ont pas spécialement respectées. On va avoir finalement peut-être leur premier ministre, on se doute qu'ils vont peut-être pas faire grand-chose, et on n'a pas grand monde pour nous représenter en tant que jeune. Donc peut-être que ça explique aussi cette abstention. Et ce manque d'envie finalement d'aller voter, de s'investir dans une vie politique qui finalement n'a pas tellement d'espoir dedans en fait.
Alors, faudrait... voilà. Merci beaucoup Benjamin, merci aussi à Gérald.
Non, c'est...
Oui, qui veut répondre, Michel?
Non, mais c'est un problème de responsabilité. Moi, je comprends ces jeunes qui n'ont pas envie ni d'aller ni dans les syndicats ni dans les partis politiques, sachant qu'ils n'y occuperont pas de responsabilité majeure. Voilà.
On voit la difficulté pour les législatives, là, les investitures. C'est vrai qu'on fait pas beaucoup de place aux jeunes. Hein.
Dans le même schéma vertical d'une sorte de bizutage généralisé, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde effectivement politique, où il faut faire ses preuves, etc., où effectivement il faut être très âgé pour occuper un poste de responsabilité, soit dans un syndicat, soit effectivement dans un parti politique. Donc, il faut faire de la place. Voilà. Comme les hommes en font un peu plus pour les femmes, mais avec beaucoup de difficultés, il faut faire de la place pour les jeunes.
Voilà, notamment avec le non-cumul des mandats dans le temps, Laura Slimani, si j'ai bien lu ce qui est dans le livre blanc du Forum français de la jeunesse.
Ça fait partie des revendications, effectivement, de toutes les organisations de jeunesse. Il faut absolument le faire, effectivement. Mais je voulais juste, d'abord, avant de répondre à cela, mais un peu pour faire écho à ce qui avait été dit par Louis Chauvel en disant c'est toujours très facile de taper sur les jeunes qui représentent les jeunes. Et moi, je trouve ça toujours très drôle quand ça vient de personnes qui parlent au nom des jeunes alors qu'elles ne le sont pas elles-mêmes. Et je pense que personne n'a le monopole de la parole de la jeunesse et qu'on peut être dans différentes situations, mais pourtant avoir un diagnostic réel de ce que vivent les jeunes au quotidien. Et c'est d'ailleurs aussi, à un moment donné, ce que disent là les personnes qui sont intervenues, Benjamin et Gérald, en disant on ne se sent pas représenté par les personnes qui sont à la télé. Voilà, c'est vrai, c'est un constat. Et en même temps, aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est, de par mon expérience internationale et européenne avec les jeunes socialistes européens, c'est que aux États-Unis, vous avez eu un mouvement de jeunesse énorme, incroyable autour de la candidature de Bernie Sanders, qui n'est pas, lui, très jeune, mais qui incarnait une certaine authenticité, mais qui avait des propositions qui avaient le mérite de dire la vérité sur le système financier et sur la vie des jeunes et des moins jeunes. Voilà, c'est la même chose pour Jeremy Corbyn au Royaume-Uni. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas avoir nous aussi notre Jeremy Corbyn ou notre Bernie Sanders.
Merci Laura Slimani. C'était le mot de la fin pour vous. On fait un dernier tour de table. Vous avez chacun 30 secondes, pas plus, Louis Chauvel.
La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est d'autant plus atterrante, je pense, que lorsque l'on voit comment les jeunes ont été mal représentés au cours des 20 dernières années, notamment, enfin, Bruno Julliard est un monsieur extrêmement sympathique qui a animé un débat extraordinaire à certains moments, mais au bout du compte, quel a été le bénéfice pour la jeunesse d'avoir ces représentants-là avec ces politiques-là?
Voilà.
Pas tellement plus que vis-à-vis du clan d'en face.
Vous avez épuisé vos 30 secondes, Michel Fils, c'est à vous.
Moi, je dis simplement, si monsieur Cambadélis veut bien recevoir et accueillir favorablement ma candidature aux primaires dite citoyenne, je m'engage, ce que j'ai fait tout au long de ma vie, à défendre un programme jeunesse global, sérieux et efficace.
Voilà, ce sera le mot de la fin pour Giuseppe Aviges de l'UNL. Vous avez 30 secondes, faites passer vos messages, profitez-en.
Yes, alors nous on invite tous les candidats à l'élection présidentielle à venir à notre congrès d'interpellation présidentielle, donc le 25-26 février à Paris, pour répondre à la question des lycéens, pour répondre à leurs problématiques et pour finalement faire en sorte que la politique pour les jeunes ne soit pas seulement un calcul politique de quelques personnalités, mais soit une réelle ambition. Il faut faire en sorte qu'on ait une politique d'emploi qui se mène dans ce pays, pour faire en sorte que l'école de demain, celle de l'égalité et de l'émancipation, soit efficiente, pour faire en sorte que la lutte contre la précarité de la jeunesse ne soit pas des mesurettes, mais un réel changement radical dans la société.
Et ça, vous êtes d'accord que c'est pas que avec les jeunes, que tout le monde est bienvenu pour participer à ce combat. Toutes les générations, c'est le même objectif.
Même Mélenchon.
Bien sûr.
Bien sûr. C'est tous ensemble, main dans la main, qu'on va réussir à faire avancer cela.
Laura Slimani, petit rab.
Non, simplement, emparez-vous de toutes les cases démocratiques dont vous pouvez vous emparer. Les primaires des 22 et 29 janvier en sont une. Et il faut que la voix des jeunes soit entendue pour faire advenir une gauche véritablement du 21e siècle.
Surtout que les parents, eux aussi, ont forcément conscience de toutes ces questions. Un grand merci à vous tous. Laura Slimani, présidente des Jeunes Socialistes Européens. Giuseppe Aviges, vice-président de l'UNL. Michel Fize, auteur de Jeunesse à l'abandon. Louis Chauvel, auteur de La spirale du déclassement. Bonsoir. C'est la fin de ce 18-20. Merci à ceux qui m'ont aidé à le préparer. Irène Ménel, Marie-Claude Malartic, Jérémy Younes à la réalisation, Éric Lenné à la technique, Michel Bézikian, Loïc Frapsos, Fabrice Desmaz. Un grand merci aussi aux standardistes de l'émission.